Mon copain Olivier Cadio, qui aussi est un écrivain que j'admire, dit souvent un truc que je trouve très juste. Il dit « Ce qu'on aime au fond, c'est ce qui est à la fois hyper moderne et très ancien. » Alors, je trouve ça très juste. Et d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'aimais le numérique. Je l'aime parce que c'est un attribut très fort de notre modernité, ce qui donne même peut-être forme à l'expérience contemporaine, et sans doute même à l'expérience dans l'avenir. Mais le numérique, c'est aussi bien souvent ce qui nous relie au passé et ce qui fait ressurgir sous une autre forme de très vieilles questions. Et c'est pour ça que la typographie m'a toujours intéressé. Comment les textes apparaissent sur nos écrans, comment s'y affiche le texte, le sens. Bon alors, ça fait un peu pompeux de dire « ouais, la typographie m'a toujours intéressé », surtout qu'en fait, j'y connais que dalle. Mais quand j'y réfléchis, et d'ailleurs je pense que je suis pas le seul de ma génération dans ce cas, la typographie a été vraiment le premier contact avec l'ordinateur. Mon père était ingénieur en informatique et quand il nous emmenait à son bureau, ma sœur et moi, il nous mettait devant des ordis. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On s'amusait avec le traitement de texte. On changeait de police, de couleur, de taille de texte, on imprimait, etc. C'était ça qui nous amusait.
Le code a changé.
La question, c'est que, outre des souvenirs personnels pas passionnants, je le reconnais, se joue dans la typographie exactement ce que dit mon copain Olivier Cadio. La rencontre de l'hypermoderne et du très ancien. Et même les mots disent ça. Aujourd'hui, une petite boîte de graphiste avec des lunettes, la Super Chebran qui créer de nouvelles typos sur des sites internet, ça s'appelle toujours une fonderie, comme au temps du plomb. Mais surtout, ce vieil art de la lettre et de la mise en page est travaillé par tout ce qui travaille le reste du numérique. La domination de grands acteurs économiques, l'exploitation de données personnelles, l'intelligence artificielle et tout ça. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, toutes ces grandes questions qui traversent le numérique ont un rapport avec la manière dont le texte s'affiche sur nos écrans.
Le code a changé.
Ça faisait longtemps que j'avais envie de discuter de tout ça, et là, pof, j'apprends la parution d'un livre. Il s'appelle Typothérapie, et son auteur est Nicolas Taffin. Il sort dans les très bonnes éditions CEF, maison d'édition que Nicolas a cofondée avec Hervé Lecronier. Alors, dans le tandem de CEF, Nicolas, c'est celui qui compose les livres. On se connaît depuis longtemps avec Nicolas, et j'aime bien l'écouter parce qu'il parle avec une voix très douce. Mais c'est pas simplement sa voix qui est douce, sa pensée l'est aussi. Et c'est pas pour rien qu'il a appelé son livre « Typothérapie », c'est parce que pour lui, la typo, du caractère jusqu'à la mise en page, ça relève du soin. Il dit toujours, pour bien mettre en page un texte, il faut beaucoup d'empathie. Il faut avoir envie de faire du bien à cet autrui qu'est le lecteur ou la lectrice, en lui rendant agréable sa rencontre avec le texte et ce qu'il trimballe de signification. Ça, Nicolas le justifie en allant puiser dans l'histoire de la philosophie, parce que la philosophie, c'est sa formation initiale, mais c'est aussi ce qu'il guide dans son abord de toutes les questions dont j'ai envie de parler avec lui. Et voilà, donc un jour, il est venu à la maison de la radio, il s'est installé dans un studio avec son grand corps, et on a commencé à discuter, un peu à bâton rompu, et je lui ai demandé s'il y avait encore des gens qui imprimaient avec du plomb, ou si la possibilité de faire tout via les écrans et sur les écrans avait complètement tué le game.
C'est redevenu un truc de jeunes, en fait, le plomb. Il y a beaucoup de collectifs de jeunes qui ont retrouvé des casses typo, des presses, qui ont remonté un micro-atelier de typo au plomb.
Attends, mais et pourquoi ces gens-là, ils le font pas derrière des écrans?
Je pense qu'il y a des allers et retours, des espèces de boucles avec la techno. Parfois, c'est les jeunes qui font avancer la technologie parce qu'ils développent un truc dans un coin, un nouveau logiciel. Mais tu as aussi des gens qui retournent au low-tech, comme on retournait à la Terre, tu sais. C'est-à-dire qui se disent, bon, on peut aussi se débrancher, c'est unplugged, on y va. On est autonome, on n'a pas besoin d'autant de moyens. On est moins standard aussi parce que ça donne une esthétique, ça permet de faire de la recherche artistique. Et puis en même temps, on retrouve des gestes et une précision, un savoir-faire qui est extrêmement élaboré. Parce que la typo, depuis Gutenberg, c'est 550 et quelques années de savoir-faire qui se transmettait avant, tu sais, de maître à apprenti dans les ateliers et tout ça. Et donc ce savoir-faire, tu le trouves aussi beaucoup dans les gestes, pas dans les logiciels qui sont standardisés avec les menus et tout ça.
Ok, donc j'ignorais complètement ce mouvement de retour au plomb. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant non plus, vu qu'on remange de l'épeautre, du rutabaga, pourquoi on n'aurait pas envie d'imprimer au plomb ? Nicolas a sans doute raison d'inscrire ça dans un mouvement plus global. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que l'un et l'autre se nourrissent ? Est-ce que se frotter aux presses et aux caractères en plomb, ça aide pour la typo sur ordinateur ?
Ah ouais, je suis sûr. On peut faire un livre avec n'importe quoi, en fait. Tu peux faire un livre à la main avec du papier que tu vas coudre et écrire et tout ça. Tu peux faire avec un photocopieur, tu peux faire avec du plomb. Et je pense que d'explorer les différents moyens de faire, ça forme une démarche où tu peux en effet réfléchir, et y compris réfléchir à la techno d'aujourd'hui, en la mettant un peu au défi. Mmh. Si tu regardes par exemple la résolution, la vraie typographie au plomb qui laisse une empreinte dans le papier, c'est quelque chose de tellement haute résolution. C'est-à-dire que c'est vraiment des poinçons qui étaient gravés par des gens qui avaient souvent une formation d'orfèvre. Donc c'est microscopique. Quand tu vois la résolution d'un écran des années 2000 qui était 72 dpi, c'est vraiment dégueulasse à côté. Donc en fait, le numérique était très en dessous de ce qu'on pouvait faire en analogique.
Pendant que Nicolas parle, je repense à mon copain Olivier Cadio, l'écrivain qui dit que ce qu'on aime vraiment, ce sont les trucs qui sont à la fois hyper modernes et anciens. Bon ben lui, Olivier Cadio, il a une autre caractéristique que prononcer des punchlines, il les incarne. Et notamment parce que quand il a commencé à écrire au début des années 80, il écrivait de la poésie et il imprimait ses poèmes sur une vieille presse à caractère de plomb. Vraiment le truc à l'ancienne. Alors qu'aujourd'hui, c'est le seul écrivain que je connaisse qui, quand il se met à un livre, se fait d'abord paramétrer sur InDesign une page hyper précise et à chaque fois différente selon les textes, en choisissant hyper scrupuleusement la taille des caractères, la disposition sur la page, les marges, etc. Alors même qu'il ne fait plus de poésie. Donc, il y a 35 ans, il composait sur une machine issue du 15e siècle. Aujourd'hui, il utilise l'informatique dernier cri. Ça, c'est une trajectoire qui m'a toujours intrigué. Et donc, il y a 2 ans, en sortie de confinement, je suis allé le voir dans sa campagne, la maison charentaise en pierre blanche où il imprimait dans les années 80. On s'est assis à l'immense table en bois qui traverse la tout aussi immense cuisine. On était bien, le poêle brûlant, la soupe qui cuisait. J'ai allumé un enregistreur et je lui ai demandé de me dire à quoi lui avaient servi la typo et sa vieille presse.
Évidemment, le fait de toucher les lettres et de les disposer sur la page, et d'avoir conscience de ce que c'est que, par exemple, l'occupation d'un poème sur une page. Le mode de l'économie extraordinaire que c'est de faire la poésie minimaliste, parce que t'as beaucoup moins de trucs à faire, de plomb, tu vois, que si tu faisais de la prose. Mmh. Je sais pas si t'imagines la différence.
Vas-y.
Elle est énorme. Donc si tu mets 4 lignes par page, gain de temps énorme. Donc toute la poésie blanche, c'est d'abord une poésie d'ultra paresseuse, tu veux.
Ouais.
Voilà. Donc, ouais, le fait d'avoir touché les lettres a fait, curieusement, je suis devenu fétichiste. Comme les gens qui sont fétichistes du pied, quoi. C'est-à-dire que je voyais les lettres. C'est-à-dire, j'avais un rapport très, très sensuel à la question de l'impression.
Mais c'est quoi le fétichisme de la lettre?
J'ai commencé, alors je sais pas si c'est à cause de l'imprimerie ou pas, j'ai commencé à lire à l'intérieur des textes. Au lieu d'avoir une lecture intelligente qui consiste à lire une page de A à Z, si tu veux, normalement, avoir un rapport de prédateur. Hmm. Comme si je mettais une torche sur un texte, donc d'agrandir, ouais, et de voir la lettre, tout simplement la lettre apparaître. Mmh. Alors si tu choisis du Garamond, par exemple, t'as des Q, ouais, t'as des attachés, t'as des trucs extravagants, quoi. Bon. On va faire une pause?
Ouais, ou bien tu veux, qu'est-ce que tu vas chercher?
Je vais chercher un papier.
Ok.
Ce qu'il dit, Olivier, c'est quand même super important pour notre histoire. Cette articulation qu'il fait entre imprimerie au plomb, fétichisme de la lettre, manière de lire très particulière, et puis au final, manière d'écrire aussi très singulière. Bon, le problème de Cadio, c'est qu'il ne tient pas en place. Il est parti chercher une feuille de papier, puis il est revenu, il a fait ça 10 fois pendant la discussion. Nicolas, lui, il est plus calme. Et donc, il me disait que dans les années 2000, la résolution des écrans était telle que le numérique était moins précis que l'analogique. Ok, mais en 20 ans, ça a changé. Est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à un moment où les choses se sont inversées? La précision du numérique a dépassé celle de l'analogique.
Oui, on peut zoomer à l'infini. Donc je vois souvent des étudiants qui sont en train de faire un truc. Je regarde et je dis, mais t'es à combien? T'es à 3000%. Tu sais que ce que tu fais là ne sera pas perceptible. Et en fait, on est piégé par la technique et la possibilité de zoomer à l'infini. Ceci dit, la PAO, c'est-à-dire la publication assistée par ordinateur, ce qui, moi, m'intéresse, c'est un truc qui est resté dans un paradigme des années 80, carrément. C'est-à-dire que les logiciels de PAO, Adobe, tout ça, n'évoluent pas fondamentalement. Ils sont comme ils étaient. Ils ont rajouté des petits trucs. Ils saupoudrent pour te revendre une version chaque année avec une petite nouveauté. Mais t'es dans le même paradigme. Il faut cliquer sur un objet, modifier ses attributs, et recliquer. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Moi, j'en fais partie de un petit peu ce mouvement-là qu'on appelle HTML to print. C'est-à-dire, j'ai travaillé de la même manière depuis, on va dire, 20 ans ou 30 ans, et j'en ai marre. Quand tu découvres, c'est bien, c'est dur, t'apprends, bon. Mais quand t'as fait ça longtemps, tu te dis, et si je faisais autrement ?
Intéressant ça, faire autrement que ce qui est dicté par les logiciels de PAO. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce dont parle Nicolas, HTML to print, j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, j'imagine que c'est faire de la mise en page avec HTML, le langage qui est utilisé pour fabriquer des pages web, donc coder la mise en page d'une certaine manière. Mais j'ai besoin d'explications, et puis ça m'intrigue qu'il y ait un mouvement.
Il y a plusieurs personnes dans le monde qui essayent d'utiliser le navigateur web, qui est fait, lui, pour faire, tu sais, cette longue page qu'on déroule à l'infini. Donc, il ressemble plus à un volumen, tu sais, les livres qu'on déroulait. Donc, c'est ça, le scroll, un rouleau. Ça, c'est le navigateur web. Ouais. Et le problème du livre, c'est que le livre, c'est des pages avec un espace qui est fermé et symétrique. En plus, il y a le pli central et tu tournes la page. Donc, le navigateur est pas fait pour ça. Mais on a quelques développeurs, des hackers, on va dire, un petit peu quand même, au départ, qui ont développé des petits scripts qu'on peut rajouter, qui permettent de supporter les médias paginés dans un navigateur web.
D'accord, c'est technique. Enfin, en fait, c'est pas si technique que ça. Ce sont de vieilles histoires. Le web, on le sait, n'a pas copié le livre dans sa manière de disposer le texte sur l'écran. Ou plutôt, le web s'est inspiré d'une forme antérieure au livre qu'on appelle le volumen. Le volumen, c'est ce qu'on trouve depuis l'Égypte ancienne jusqu'à l'Antiquité. En gros, c'est un rouleau, d'abord en papyrus et puis ensuite en parchemin. Le vrai volumen, il peut mesurer jusqu'à 10 mètres, il se déroule horizontalement et le texte est disposé en colonnes. Mais qu'il se déroule horizontalement, ça pose plein de problèmes. Parce qu'il faut utiliser ses deux mains pour le consulter, parce que en général, il faut céder du menton pour tenir l'objet, que le menton, ça laisse des marques, etc. Alors au début de notre ère, est apparue une forme concurrente au volumen, c'est le codex. On coupe des feuilles, on les empile et on les lit les unes aux autres. Alors c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus solide, plus facile à manier et à consulter, puisqu'on peut facilement revenir en arrière, sauter des pages. Et donc, avec le codex, vont se développer plein d'outils, la pagination, l'index, qui permet de savoir où trouver ce qu'on cherche, etc. Bon. L'imprimerie, elle a réutilisé le modèle du codex et ça a donné le livre qu'on connaît. Mais donc, quand apparaît le web, il va revenir à cette vieille forme du volumen. Enfin, plus exactement, le rotulus, c'est-à-dire le rouleau vertical, qui se déroule de haut en bas, et ça, c'est un truc du Moyen-Âge. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est une forme concurrente au codex, c'est une forme réservée à des usages un peu plus savants, un peu plus nobles. Et voilà, donc le scroll, dont parle Nicolas, le fait de faire défiler notre écran vers le bas, eh ben, c'est un héritage d'une forme médiévale. C'est quand même assez marrant quand on y pense. C'est assez marrant, mais c'est assez profond aussi. Parce que, si j'ai bien compris, ce qui rendait le rotulus plus noble que le codex au Moyen-Âge, c'est qu'il nécessitait une forme d'immersion. C'est-à-dire qu'on pouvait pas lâcher et reprendre sa lecture aussi facilement qu'avec le codex. Le rotulus, c'était plus immersif et donc plus respecté pour ça aussi. Est-ce que c'est un hasard si les applis qui cherchent le plus à capter notre attention aujourd'hui, comme TikTok par exemple, exploitent le côté immersif du rotulus, mais en l'augmentant de ce que permet la technologie, à savoir le rendre infini par le rechargement constant? Moi, je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Mais bon, je m'égare. Donc, si j'en reviens à ce que dit Nicolas, même si le web s'inscrit dans la tradition du rotulus, il y a dans les navigateurs une sorte de fonctionnalité non exploitée qui permet de faire revenir la forme codex, la forme du livre. Et donc il y a des mecs qui ont écrit des programmes qui permettent d'exploiter cette fonctionnalité et de fabriquer des sortes de livres numériques qui soient lisibles directement dans le navigateur. Bon, au lieu que ce soit un site qui s'affiche, en gros c'est un livre. Alors, c'est vachement beau quand on y pense. Des gens qui mettent leur connaissance et leur énergie à fabriquer un script open source qui puisse être utilisé par tout le monde pour rendre possible le livre dans le web. Bon, c'est hyper beau intellectuellement. Mais alors, quel est l'intérêt ?
De se libérer des outils commerciaux qui existent. Parce que quelque part, l'outil aussi, il induit une esthétique. C'est-à-dire que quand tu t'as vu, enfin, dans Photoshop, quand, je sais pas, tel filtre est arrivé, tout le monde fait le filtre. Là, maintenant, c'est les IA qui font des images, donc on en voit partout, elles ont toutes la même saveur, un peu.
Ok, donc l'intérêt, il est multiforme, économique, politique, esthétique, c'est se libérer d'une dépendance. Mais je serais curieux de savoir quelles sont les implications de cette dépendance à des logiciels commerciaux. Est-ce qu'il y en a d'autres que juste le fait que ce soit cher et standardisé ? Alors je pose la question à Nicolas qui me raconte un truc complètement hallucinant.
Cette année, les couleurs ont disparu des documents d'Adobe à cause de la rupture entre Pantone et Adobe. Donc quand on ouvre un vieux document où il y avait des couleurs Pantone, c'est remplacé par du noir, donc c'est caviardé par le logiciel. Donc si on a travaillé sur une collection et qu'on ouvre un truc de l'année dernière, eh bien c'est du noir et on n'a plus Pantone. Bon. Le manque de liberté, parfois, il te saute à la figure, quoi.
Ah ouais, quand même. C'est dingue. Bon, après, Nicolas m'a expliqué qu'il y avait un autre intérêt à faire des livres directement dans le navigateur, en se passant de tous les logiciels de PAO, c'est que ça rend vachement plus facile de décliner un texte sur plusieurs supports, d'avoir une source unique pour le livre papier, mais aussi pour une version web, une version tablette, smartphone, etc. Mais bon, même si cette seconde motivation est sans doute économiquement et industriellement plus importante, j'avoue que la première me parle plus, se défaire de la dépendance au logiciel. Et cette histoire de disparition de la couleur, alors là, ça m'hallucine, quoi. Du coup, je suis allé voir ce que c'était que cette rupture entre Adobe et Pantone. Bon, Adobe, on le sait, c'est l'énorme éditeur de logiciels super utilisé dans les métiers du texte et de l'image, comme InDesign, Photoshop, Illustrator, etc. Et Pantone, c'est une bibliothèque de couleurs, pour le dire vite. Historiquement, le catalogue des couleurs Pantone était en accès libre dans les logiciels Adobe. Or, l'année dernière, cet accord a cessé. Et à moins de payer, les couleurs du catalogue Pantone ont disparu à l'occasion des mises à jour. Il est donc arrivé ce que raconte Nicolas. Des gens ont vu les couleurs disparaître de leur travail. Comme ça, pof. On pourrait trouver ça presque beau si c'était pas aussi complètement terrifiant. En écoutant Nicolas raconter ça, je me dis que c'est dingue à quel point, même si on suit de relativement près l'actualité d'un domaine, eh ben on passe à côté de beaucoup de petits drames. Et ça me fait penser, comme ça, à une nouvelle de Dino Buzzati que j'ai lue petit et qui me hante depuis. Elle est dans le cas, le recueil qu'on lit quand on est ado, et je pense qu'on a tort de ne pas lire après. Tiens, je demandais à Fanny de mettre des sons là, de jardin italien, la nuit, pour raconter cette nouvelle. Un moment un peu fiction radiophonique France Culture. Cette nouvelle raconte un couple qui va se coucher dans une très belle villa italienne, cette villa se trouvant au milieu d'un jardin. Au moment de se mettre au lit, la femme a une montée d'angoisse. Elle a l'impression qu'il se passe quelque chose dehors. Alors le mari va à la fenêtre, il ouvre les volets et il regarde le jardin. Et là, Buzzati raconte tout ce qui se passe dans un jardin la nuit. Le chat qui attrape et dévore un mulot, les sauterelles qui se font bouffer par les crapauds, les taupes qui chassent les vers de terre, les araignées qui enserrent les moustiques dans leur toile et les regardent agoniser, etc., etc. Mais évidemment, le mari, lui, il ne voit rien de tout ça. Il ne perçoit rien de la scène horrifique qu'est un jardin la nuit. Il entend juste les cigales et le croassement des grenouilles, alors il dit à sa femme « Mais non, ma chérie, tout est tranquille. » Et il referme les volets. Je me dis d'abord, c'est vraiment chelou que cette nouvelle me vienne à l'esprit, parce que vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Schmilblick. Et puis après, je réfléchis, et là, paf, j'ai une illumination. En fait, je suis peut-être comme ce riche Italien qui ne voit pas ce qu'il a sous les yeux. Toute la journée, je regarde des lettres sur des écrans sans me rendre compte des enjeux qu'elles portent, de la guerre peut-être qui se joue avec elles. Je suis peut-être en train de rater un truc très grave, une tragédie. Là, quelque chose vient d'apparaître avec cette histoire des couleurs qui disparaissent et de la dépendance au logiciel. Mais il y a peut-être d'autres drames. Alors, je veux reprendre les bases avec Nicolas. On l'a compris, la typo, c'est principalement deux choses. Le sens le plus évident qu'on connaît, c'est la fabrication des polices, des fontes. L'autre sens, c'est la composition des textes. Alors, je demande à Nicolas ce qu'il y a comme caractère commun à ces deux choses, à ces deux pratiques.
Béatrice Ward, c'est dans les années 20, je crois, parle du verre de cristal qui permet de passer à ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. La vraie valeur, c'est ce qu'il y a dedans. Emmanuel Souchier, qui est un chercheur et qui est au CELSA, lui a parlé, il y a longtemps déjà, de la servante du sens. Donc moi, j'appelle ça le travail invisible, c'est-à-dire que quand c'est réussi, tu ne t'aperçois de rien. Et alors, c'est un problème pour se faire payer. C'est-à-dire, comment vivre d'un métier dont, quand il est bien fait, il n'est pas remarquable. Il n'est pas remarqué, en tout cas.
Ça me rappelle un moment de ce vieux film de James Ivory qui s'appelle Les Vestiges du jour, où Anthony Hopkins joue un majordome anglais particulièrement à cheval sur l'éthique de son métier.
Vous avez besoin d'autre chose, monsieur le comte.
Et qui est bouleversé par l'arrivée dans la maisonnée d'une intendante dont il tombe amoureux, mais sans jamais lui avouer, parce que lui avouer, ce serait déroger aux règles de son métier. Et à un moment du film, il dit un truc qui m'est resté en tête depuis.
Merci, Stevens. Bonne nuit.
Bon, je me suis tapé le film et j'ai pas retrouvé la phrase.
Bonne nuit, monsieur.
Enfin, dans mon souvenir, Anthony Hopkins regardait Emma Thompson et lui disait « Quand un domestique est dans la pièce, elle est encore plus vide. » Bon, cette phrase, elle n'est pas dans le film, mais c'est pas grave. Donc voilà, la typographie, c'est un art domestique, un art au service du sens. Et cet art, on a du mal à lui donner une valeur. Mais du coup, est-ce qu'il ne serait pas tentant de se passer de cette partie de la typographie qui consiste à composer, enfin automatiser la mise en page, comme on a automatisé, et on continuera de le faire, bien d'autres choses? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la typographie soit prise à son propre jeu de la discrétion et qu'on fasse disparaître jusqu'au typographe même?
Oui, je ne vais pas te mentir, oui. Personne n'aurait soupçonné que les IA attaqueraient d'abord les illustrateurs et le métier artistique. On disait peut-être un peu pour des métiers comme le droit, où il y a beaucoup de littérature à compiler, tout ça. Mais c'est arrivé, boum, sur les images artistiques, l'illustration. Et là, maintenant, on découvre avec que les IA sont capables de produire du discours. Mmh. Et d'un seul coup, c'est les journalistes qui commencent à flipper. Donc, la menace dont tu parlais, d'automatisation, elle existe. En même temps, regarde... On va se mettre à automatiser, et puis d'un seul coup, t'as quelqu'un qui va dire « Ah bah moi, j'ai écrit mon livre tout à la main, et ça va être un succès. »
Ouais, je vois l'idée, c'est qu'il y a une sorte de mouvement de balancier. D'un côté, menace de l'automatisation, de l'autre, recherche désespérée de l'inverse. C'est un truc qu'on a beaucoup vu dans l'histoire récente. C'est au moment où on disait, par exemple, qu'il fallait pas faire une vidéo qui dure plus d'une minute trente, que se sont mis à cartonner les entretiens de deux heures de Thinkerview. Je vois l'idée de Nicolas avec son livre écrit à la main, ok. D'ailleurs, ça peut être une allégorie de notre espérance en voyant les programmes d'IA comme ChatGPT ou DALL-E, auxquels fait référence Nicolas. Hein. Si l'IA fait très bien les trucs que fait l'humain, c'est que l'humain doit faire autrement ou autre chose. Si l'IA permet de mettre en page automatiquement, bah écris-moi à la main. Pourquoi pas? Ça, c'est pour l'aspect mise en page de la typo. Mais... si on s'intéresse à l'autre aspect, celui des lettres, des polices, il y a peut-être autre chose qui est en train de se jouer. D'un côté, il y a une efflorescence, des gens qui profitent du fait que créer de nouvelles polices soit plus facile aujourd'hui qu'au temps du plomb. En 2012, j'avais fait une émission sur la typographie avec trois jeunes typographes qui m'expliquaient ce renouveau.
On peut emprunter des chemins de traverse, on n'est pas forcément obligé de faire une école typographique pour faire des caractères, puisque à partir du moment où on commence à manipuler les courbes de Bézier, enfin ces formes un peu vectorielles sur ordinateur, bah, ça peut donner des lettres. Alors après on peut discuter sur l'esthétique de ces lettres, mais enfin, elles existent. Donc on peut effectivement privilégier des conventions, parce qu'on a plus forcément la férule des anciens.
C'est justement cette génération post-script qui ont eu les outils en main, et on a eu les outils en main pour pouvoir le faire. Enfin, tout était possible dans le sens où, une fois qu'on est capable de dessiner une courbe de Bézier, n'importe qui, entre guillemets, peut commencer à créer sa propre police d'écriture.
Donc, il y a ce mouvement d'appropriation de la typographie par plein de gens. Ok. Mais il y a un autre mouvement. Un mouvement de concentration, celui-ci, avec de gros acteurs spécialisés comme Monotype, hein, qui est la première bibliothèque de fonte au monde. On peut donc y acheter des licences pour utiliser des polices et, d'après ce que j'ai compris, aussi se faire créer des polices spécifiques pour des logos de marque, etc. C'est assez marrant, l'histoire de cette entreprise Monotype. Au départ, le Monotype, c'est une machine inventée par un Américain à la fin du 19e siècle, une machine de composition qui marque le passage d'ailleurs entre la typographie manuelle, hein, celle issue directement du 15e siècle, où on place les caractères les uns après les autres à la main, et puis la photocomposition, la technologie qui a juste précédé l'informatique. Et donc la machine Monotype aujourd'hui, elle est obsolète depuis longtemps, hein, mais la société continue de s'appeler de ce nom, comme un souvenir de l'histoire, encore une fois. Donc, dans les gros acteurs, il y a Monotype, qui a plus de 10 000 fontes dans son catalogue, hein, je crois, dont Helvetica, par exemple. Mais Adobe, dont on parlait tout à l'heure, a aussi une fonderie qui propose plusieurs milliers de polices différentes. Bref, je demande à Nicolas pourquoi ces gros acteurs existent encore, alors qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer et de distribuer des fontes.
Il y a beaucoup de signes à mettre dans une typographie. C'était 290 pour Gutenberg, mais aujourd'hui, une typographie, c'est un programme informatique, c'est un fichier avec du code. Et on code beaucoup plus de caractères parce que on va vouloir l'utiliser en suédois. Donc tu vas avoir très vite jusqu'à 10 000 signes dans une typographie. Et l'air de rien, c'est pas évident pour un tout petit, tout seul dans son coin, de faire ça. D'autant qu'il faut régler dans une typo les approches entre les caractères. Et c'est très important, en fait. Le blanc, ou ce qui circule entre les formes, est aussi important que les formes elles-mêmes. Comme on ne sait pas ce que tu vas taper au clavier, quelle séquence tu vas composer, on ne peut pas la prévoir, puisqu'il y en a trop. il faut que ça marche, que ça soit pas trop espacé, pas trop serré. Donc, bref, il y a un gros boulot de designer de fonte, de développeur de fonte, etc. Et ce gros travail, c'est pas toujours évident de le faire dans une micro entreprise ou un indépendant.
Le truc des espacements qui diffèrent selon les suites de caractères, alors ça, je savais pas du tout. C'est encore une histoire de choses qui se voient, qui se voient pas. Le nombre de caractères qu'il faut aujourd'hui dessiner si on veut créer une police, ça, oui, c'est assez évident. Hein. Gutenberg, il avait à sa disposition un peu moins de 300 caractères, nous a rappelé Nicolas, bon, c'est déjà pas mal. Les 26 lettres de l'alphabet, plus les lettres accentuées, les chiffres, les capitales, les italiques, tous les signes diacritiques, ponctuation, etc., mais aussi des caractères liés pour se rapprocher le plus possible de l'écriture manuscrite, ouais, on doit arriver à 290. Mais pourquoi c'est passé à 10 000 caractères aujourd'hui ? Eh bien parce que si on veut créer une police qui soit utilisable dans toutes les langues qui utilisent l'alphabet latin, par exemple, il faut dessiner tous les caractères de toutes ces langues. Bon, exemple, la tilde espagnole, le gros B allemand là pour le son S, et le haut barré suédois qui se prononce E. Bon, c'est déjà énorme. Et puis, il faut prévoir aussi les suites de caractères spécifiques à ces langues, avec les bons espacements, etc. Donc quand on ajoute tous les autres signes, comme la ponctuation et tout ça, bah ouais, on doit arriver assez vite à 10 000. Donc ok, je comprends là le phénomène de concentration et la présence de gros acteurs qui peuvent fournir des fontes complètes. Mais dans ce champ de la typo, il y a aussi des acteurs qu'il est plus étonnant de rencontrer. Et là, je pense en particulier à Google. Google s'intéresse beaucoup à tout ça. Premier exemple de son intérêt pour la typo, c'est un projet du nom de Noto. Noto, c'est un truc un peu dingue comme Google peut les imaginer. Depuis plus de 12 ans, Google développe une police de caractères qui soit adaptée à la quasi-totalité des langues du monde. Alors pourquoi donner le nom de Noto à ce projet un peu maboule ? Eh bien parce que quand sur notre écran apparaît un caractère non reconnu par la machine, s'affiche un petit carré vide. Et ça, en langage geek, ça s'appelle un tofu. Donc Noto, c'est le raccourci de no tofu, pas de tofu. L'idée, c'est que Noto permette d'afficher tous les caractères répertoriés. Alors, justement, ces caractères répertoriés, quels sont-ils ? Eh bien, ce sont ceux qui apparaissent dans Unicode. Unicode, c'est une sorte de catalogue qui recense et attribue un code à tous les caractères possibles. Il y a les lettres de tous les alphabets, y compris des langues disparues comme, par exemple, les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Il y a tous les chiffres de tous les systèmes de numération, il y a aussi tous les idéogrammes de toutes les langues à idéogrammes, mais on y trouve aussi d'autres signes comme les émojis, par exemple. Et Unicode s'enrichit régulièrement. Dans la dernière version, qui date de septembre 2022, ont été intégrés des caractères du vieux javanais, mais aussi 4000 nouveaux idéogrammes, et aussi quelques hiéroglyphes égyptiens qui n'étaient pas encore. Et on arrive à un total de presque 150 000 signes, qui peuvent, chacun, en théorie, apparaître sur un écran. Et donc, l'idée de Google, c'est d'avoir une seule police pour le plus grand nombre possible de ces caractères. Ils disent que c'est une sorte d'espéranto de la typo, quoi. Et pour ça, Google l'ont fait bosser des experts qui aident à adapter la typo de base à la langue, à toutes les langues. C'est un énorme boulot, dont Google se glorifie sur le mode « on prend soin des langues du monde, quelles qu'elles soient, on aide même à les préserver en rendant possible et facile leur apparition sur écran, etc. etc. » Mais c'est pas complètement faux non plus. Hein. Bon bref, la question que je me pose, et que je pose à Nicolas, hein, c'est, au-delà de l'affichage philanthropique, pourquoi ça intéresse Google de faire ça ?
La première raison, c'est que Google, qui a changé de nom donc en alphabet, veut recouvrir le globe. Et donc, il faut produire des documents. Enfin, ils ont des salariés partout. La note de service, il faut qu'elle soit lisible et tout. Et avant, on faisait ça, on bricolait, on changeait de typo, mais parfois, tu avais un mélange qui était malheureux. Puis en plus, c'est très compliqué parce qu'il faut des licences. Donc, ils voulaient pas acheter 50 licences. Il y a un moment où ils se disent, on va produire une typo maison, en plus ça va faire image de marque, ça fait de la cohérence dans nos documents, ça fait de la culture d'entreprise. Ils ont plein de raisons de le faire, mais notamment aussi, ils s'adressent aujourd'hui au monde entier, donc avec toute la diversité des langues. Comme on a Unicode qui est un tableau où on a toutes les lettres, ils se sont dit, on remplit toutes les cases. Ça va prendre du temps, on va payer des designers pour lancer le truc. Après, on va faire open source comme ça. Des communautés gratuitement contribueront et rajouteront des choses et compléteront ce qui nous manque. Et donc, c'est une des raisons.
Bon, j'avais pas du tout pensé à cette question toute bête, hein, d'unifier sa documentation. Mais cette cohérence, c'est pas uniquement de la culture d'entreprise. Hein, ça répond aussi à un objet plus politique, s'étendre à toute la planète. D'ailleurs, au passage, le slogan de Noto, c'est « A typeface for the world », une typo pour le monde. Il s'agit bien donc de pouvoir écrire toutes les langues. Ok, je comprends bien la première raison, mais pourquoi Nicolas avait-il l'air de dire qu'il y avait d'autres raisons ?
Depuis toujours, on vit, nous, humains, voilà, on a une représentation du monde, on vit dans le monde des idées, du langage, etc. On se parle, on lit, on produit, bon, on écrit. Ce monde des idées, il est structuré plus ou moins graphiquement. Ces sociétés, elles ont besoin d'entrer dans le monde des signes aussi. Elles ont besoin d'avoir leur logo. Qu'est-ce que c'est que le logo ? C'est l'idéogramme qui permet à une société, donc une personne morale, qui n'existe que sur le papier avec des statuts déposés quelque part dans un tribunal de commerce, d'entrer dans le monde des signes, qui est le monde important pour nous. Et alors Google, alors c'est un cas, tu prends un cas qui est extrême, parce que Google achète le langage en plus, donc enfin manipule les mots. Enfin, depuis le début, le lexique appartient à Google maintenant. Donc ils ont le moteur de recherche qui te permet de trouver, et si tu tapes un mot, le mot que tu as tapé est vendu aux enchères par eux. Donc c'est un cas extrême, Google.
Donc la typo, c'est ce qui permet d'exister dans le monde des signes, qui est pour nous humains très important, puisqu'il est le monde dans lequel, pour l'instant, on est seul. C'est ça le principe du logo d'entreprise. D'ailleurs, en écoutant Nicolas, je réalise que le mot logo, il a la même racine grecque que logos, le langage, la raison en philosophie. C'est quand même pas rien comme généalogie sémantique. Et en fait, ça corrobore tout à fait ce que dit Nicolas. Avec cette typo noto, c'est pas simplement que Google peut écrire toutes les langues ou presque, c'est que l'entreprise parle au monde. Ce que Nicolas appelle « entrer dans le monde des signes ». C'est beaucoup plus actif. On voit bien pourquoi c'est essentiel pour des boîtes de la tech dont le marché est précisément le monde. Mais pour Google, c'est peut-être encore plus important que pour toute autre entreprise de la tech. Parce que Google vit des mots. Il passe très vite là-dessus, Nicolas. Mais c'est essentiel. Comment s'appelle le système de mise aux enchères de mots qui est le modèle économique du moteur de recherche de Google et a fait la fortune de l'entreprise ? Eh bien, il s'appelle AdWords. Et on pourrait traduire ça par mots pub. Et donc, il le dit aussi, Nicolas, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la maison mère de Google s'est nommée Alphabet. Enfin, tout ça fait sens. C'est merveilleux. Mais je peux pas m'empêcher de voir là-dedans une morgue, une sorte d'ambition extrême. Et quand je pose la question à Nicolas, il a une réponse que je trouve vraiment très belle.
Nous, on a tellement l'idée que notre écriture est extrêmement performante. Hegel écrit bien là-dessus, Merleau-Ponty aussi. L'alphabet, c'est la seule écriture du monde dans laquelle l'esprit peut advenir, etc. Parce que c'est une écriture d'adulte, puisque c'est une écriture symbolique et abstraite, contrairement aux écritures d'enfants. Donc vous imaginez, ça c'était avec notre alphabet de 26 lettres. Vous imaginez l'impérialisme symbolique des gens qui travaillent dans le numérique, puisqu'ils ont un alphabet à deux signes. Donc c'est binaire. Donc c'est l'alphabet le plus efficace qui puisse exister, puisqu'avec deux signes, allumé, éteint, noir et blanc, je peux tout dire. Je peux tout montrer, la vidéo, le son là, les textes. Alors, tu vois, on se fascinait, donc c'était Borges qui disait la bibliothèque de Babel, c'est toutes les combinaisons possibles de l'alphabet, du coup ça fait tous les livres possibles, passé, présent et avenir. Alors t'imagines avec le binaire et l'IA, comment ils doivent être excités en termes d'impérialisme, quand on compare à ce que nous on a pu faire dans le monde avec notre alphabet.
C'est hyper intéressant ce que dit Nicolas. Il y aurait un impérialisme du code comme il y a eu un impérialisme de l'alphabet latin. Parce qu'en fait, il augmente encore le rapport entre simplicité et pouvoir. Ça me rappelle tout ça la manière dont Clarisse Ehrenschmidt décrit ce que c'est que le langage informatique. Alors, Clarisse Ehrenschmidt, c'est une femme extraordinaire, c'est une très grande savante, elle est archéologue, anthropologue, linguiste, elle est spécialiste de l'Iran ancien. Et elle a écrit un livre magnifique et fondamental qui s'appelle « Les trois écritures », dans laquelle elle remonte l'histoire de l'écriture depuis son invention, pour inscrire des quantités de biens, hein, c'est pour ça que ça a été inventé l'écriture, jusqu'au code informatique. Et un jour, elle m'avait expliqué la spécificité du code informatique.
On peut parler de méta-écriture, évidemment. Mmh. Hein. Mais la base de l'écriture numérique, c'est que la machine ne travaille même pas avec des 0 et des 1, elle travaille avec des passages et des non-passages du courant électrique. Grosso modo, c'est ça. La machine, elle, ne connaît que des signaux. Qu'est-ce que c'est qu'un signal ? Un signal, c'est un mouvement ou une manifestation qui donne un ordre. Quand Xavier lève le bras, la musique vient. Bon, d'accord ? C'est ce que je viens d'observer. Donc, un signal est une manifestation qui a une conséquence immédiate dans la réalité concrète. Ça ne veut pas dire « j'ai mal au bras », mon bras gauche est particulièrement beau. Je vous donne à l'admiration l'ensemble de ma position. Non. C'est un signal qui obtient un résultat. Mmh. D'accord. La machine ne connaît que ça. Elle ne connaît en aucune façon si la suite de signaux qu'elle traite appartient à, disons, un film, à une écriture monétaire, mmh. À une interview, etc. Rien. Mmh. Elle ne connaît rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe. D'accord ?
Il n'y a que des signaux.
Il n'y a que des signaux. Mmh. Ce qui est la forme la plus pauvre. Mmh. De l'univers sémiologique.
Et en même temps, qui permet.
Et en même temps, elle est tellement pauvre et tellement déconnectée du sens qu'elle permet de traiter presque tout.
En écoutant Clarisse, je m'aperçois qu'il y a peut-être un lien entre la quasi-omnipotence du code informatique, qui peut tout transformer en signal, et l'ambition de gros acteurs du numérique comme Google. Enfin, justement, j'en reviens à Google. Noto, c'est une fonte parmi d'autres. Parce que Google met à disposition gratuitement plein d'autres fontes, beaucoup moins complètes évidemment. Et là encore une fois, je ne comprends pas bien pourquoi Google fait ça.
Google Fonts permet à quelqu'un qui fait une page web d'utiliser des jolies polices en n'ayant pas la police. La police vient de chez Google, les deux se mettent ensemble et toi ce que tu lis, c'est un hybride entre le document qui vient de chez moi, donc macro-typo de chez moi et micro-typographie de chez Google. Et du coup, ça permet aussi à Google de savoir que tu as lu ce document et que tu as cliqué sur le lien pour la page suivante, etc. Et je pense que c'était la motivation, mais je ne veux pas avoir un mauvais esprit, de Google, qui était de s'ils diffusent les fontes, ils savent exactement ce que tu lis.
Ta fonte était un espion.
Ta fonte est un tracker. Et d'ailleurs, les logiciels pour te protéger, comme fait Firefox, tu peux activer des protections contre les trackers, te proposent l'option de désactiver les fontes en te disant tu seras mieux protégé contre les trackers, mais le document va pas être comme prévu. Donc tu vas abîmer le document pour protéger ta vie privée.
C'est hallucinant ce que raconte Nicolas. C'est donc ça, aussi ce qui se passe dans le jardin la nuit, sous nos yeux et qu'on voit pas. Et c'est possible techniquement parce que les fontes ne sont plus dans le site lui-même, mais elles sont streamées depuis les serveurs d'une entreprise qui les loue, les vend ou, dans le cas de Google, les offre. Sauf qu'en retour de ce cadeau, Google récolte des données. Alors, comme d'habitude, la boîte précise bien que ce ne sont pas des données personnelles, que ce ne sont que des métriques, mais bon, elles sont quand même hyper utiles à Google. Alors à la limite, on peut considérer que, comme toujours chez Google, la gratuité se paie et qu'en l'occurrence, on paie la gratuité avec des trackers. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si les autres boîtes qui font du streaming de fontes, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la quasi-totalité des fonderies aujourd'hui, elles mettent aussi des trackers dans leurs fontes, même si elles sont payantes.
C'était un problème avec Adobe, parce que Adobe, en fait, est une entreprise qui est un peu bicéphale. Il y a tout ce qu'on connaît, c'est le Adobe du design, et maintenant il y a beaucoup l'Adobe du marketing.
Tu vas pas me dire un truc horrible, qui serait que Adobe utilise ses outils de design pour recueillir des informations qui vont après servir au côté marketing de la boîte. Alors, tu vas raconter ça?
Si. Adobe recueille déjà des informations, c'est depuis quelques années. Ils avaient lancé un programme d'intelligence artificielle. Donc quand tu utilises Photoshop, que tu travailles dans ta journée, là, tranquille, chez toi, tu envoies des données sur ce que tu fais à Adobe. Si tu vas sur ton compte Adobe, parce qu'ils t'ont obligé à faire un compte, tu peux trouver une petite case à cocher qui dit « je ne souhaite pas envoyer d'informations ». Les typos, c'est un peu différent, parce que les typos, c'est du streaming de fond, donc c'est un autre service. Et là, quand on stream, on donne des données. Mais c'est vrai pour tout.
Ok, c'est vrai pour tout. Quand on regarde des vidéos, des films ou des séries en streaming sur n'importe quelle plateforme, on envoie des données qui vont servir à élaborer plein de types de métriques. Ce que je regarde, comment je le regarde, où je m'arrête, etc. On sait que Netflix a des métriques hyper précises et que la boîte s'en sert pour faire de la recommandation, évidemment, mais aussi à des fins vraiment éditoriales, pour savoir quel genre de série plaît à quel genre de public et ensuite initier des productions ad hoc. Alors oui, ok, c'est vrai pour tout, comme le dit Nicolas, mais moi je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me choque plus dans le cas de la typo. Et donc j'essaye de l'exprimer à Nicolas avec un peu des trémolos dans la voix.
Oui, c'est vrai pour tout, mais ce que je veux dire c'est que, on commence la discussion en parlant de Gutenberg, du caractère machin, etc. Et tu dis, putain, aujourd'hui dans cette espèce de truc qui correspond à un caractère de plomb qui était imprimé sur une page, t'as, tu vois, des machins qui envoient des informations pour nourrir des IA, c'est-à-dire en fait en gros aussi pour te filer au service marketing qui va vendre des outils marketing à d'autres boîtes.
Oui, ou des statistiques.
Tu dis, mais c'est horrible.
Ou des statistiques, qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as lu comme, tu vois, par les fontes, je peux savoir qu'est-ce que t'as lu ce matin là sur ton smartphone.
Ça te déprime pas, toi?
Ah si, ça me déprime. En même temps, je trouve ça, ça m'amuse, parce que la typographie était regardée, c'est, elle était lue, donc c'était l'œil humain qui regardait la typo. Aujourd'hui, tu, quand tu regardes, c'est elle qui te regarde. Donc ça fait un effet de miroir que je trouve assez amusant.
Ok, donc ce n'est plus seulement nous qui regardons la lettre, mais c'est la lettre qui nous regarde. Ça, c'est dingue. Alors Nicolas, il fait le mec détendu, voit tout ça avec une sorte de lucidité débonnaire, mais en vrai, tout son travail s'inscrit contre ça. Derrière, il y a un problème de culture dans la fabrication des sites. Bien souvent, pour des raisons de rapidité ou économiques, les développeurs construisent des sites en utilisant des briques toutes faites. Et donc, quand on se rend sur un site, eh ben, il est construit ou il se construit devant nous en allant chercher la police ici, les images là, du texte encore ailleurs. Et quand les développeurs font pas gaffe, eh ben, ces briques, elles peuvent embarquer des trackers attentatoires aux données personnelles de l'utilisateur, qui lui ne le sait pas.
C'est pour ça que je défends cette espèce de culture typographique, au sens très ouvert, au sens large. C'est cette idée de Marx que, sur une technique, se développe ce qu'il appelle une superstructure, qui est un discours, une idéologie. Dans la typographie, tu as une technique, dès le départ. C'est développé aussi une superstructure là-dessus. Cette superstructure s'appelle l'humanisme. Donc l'humanisme, c'était quoi? C'est, dans un réseau européen d'imprimeurs-éditeurs, on va avoir un réseau intellectuel qui se développe avec la technique. C'est-à-dire, avant de composer un texte et de l'imprimer à 1000 exemplaires, eh bien, il vaudrait mieux que ça soit pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faute. Donc, on corrige. Parce que tout ce qu'on avait, c'était des manuscrits, hein. Il manque des mots. Peut-être le copiste, il s'était un peu endormi, tu sais, parce qu'il faisait ça à la main. Et donc, on a cette espèce de pratique ou d'habitude qui va se créer de corriger, d'échanger, de comparer, de traduire, ce qu'on appelle l'humanisme, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel qui va mettre l'être humain au centre. Et aujourd'hui, on fait de la typo numérique. Alors, ok, prenons le bagage complet. C'est-à-dire, amenons et essayons de contaminer, on va dire, le numérique avec les valeurs ou l'idéologie de la typographie, qui est l'humanisme.
C'est très beau, cette idée de l'humanisme comme idéologie de la typographie et de contamination humaniste par la typo. Mais il me semble qu'il y a un problème. Quand on s'aperçoit, et la dernière stupéfaction en date, c'est peut-être ChatGPT, hein, quand on s'aperçoit qu'on va cohabiter avec des entités techniques qui sont capables de faire de plus en plus de choses qui étaient auparavant l'apanage des humains, comme par exemple créer des images ou des textes, et ben ça travaille forcément la centralité de l'humain qui est au fondement de l'humanisme. Bon, bref, peut-être que nous ne sommes plus tout seuls dans le monde des symboles et des signes dont parlait tout à l'heure Nicolas. Alors la question c'est, qu'est-ce qui nous reste?
Qu'est-ce qui nous reste? La typographie, on a dit, elle est servante du sens. Quelque part, elle est muette. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un jeu dans la typographie qui permet de laisser des traces sans être vu. Le signal, c'est le noir, là. Pour le typographe, c'est pas comme ça que ça marche. Pour le typographe, il y a le noir et le blanc. Et il y a une dialectique entre le vide et le plein. Donc, il y a de l'espace, il y a ce qu'on appelle les marges. On a l'interlignage. Et on a le blanc qui circule dans les lettres, ce qu'on appelle la contre-forme. Le typographe, il voit le blanc. Et il joue avec. Et toi aussi, tu le vois. Voilà, le métier, c'est autant de préserver la blancheur que de la vaincre. C'est autant d'imprimer du signal que de créer du non-sens. Ce qui est à côté du sens. Tout ce qui circule entre. Les IA savent faire du signal. Elles savent faire l'image aujourd'hui. Elles savent faire le texte. Je ne sais pas si elles savent faire le silence éloquent. C'est-à-dire, je ne sais pas si elles savent faire le silence dans la musique. Le moment où il ne se passe rien, mais qui est là et qui a une signification. C'est-à-dire que je ne sais pas si elles savent faire de la polysémie. C'est-à-dire, est-ce qu'elles savent faire quelque chose qui a pas un sens, mais qui en a deux, trois? Et tout ça n'est pas anecdotique. Tout ce qui va être de l'ordre du silence, du non-dit, tout ça n'est pas dans les IA, ces IA, elles sont entraînées sur du contenu. C'est-à-dire, elles sont pas entraînées sur du non-contenu. Google, quand il voit une page, il la voit pas. C'est-à-dire, il voit le code, il indexe le code, il sait pas tout à fait ce qui se passe entre le lecteur ou la lectrice et le document. Et ce qui se passe, ça peut être tout à fait lié à un vide, un blanc, entre deux mots. Et ça, ça échappe. Donc, si tu veux que je te donne de l'espoir, il est mince. Il est lié au vide, au silence, à des choses comme ça.
Bon, je dois avouer que ce que Nicolas m'a dit là, ça m'a bouleversé. J'ai trouvé ça très beau. Cette histoire du noir du signal et du blanc de la typo. Et très évident aussi. Oui, c'est évident, les IA sont entraînées sur le signal, elles ne sont pas entraînées par ce qui entoure le signal, qui peut être du vide, et qui peut être aussi tellement signifiant. On sait bien que dans la discussion, un silence peut être éloquent. Et ces chatbots-là, comment peuvent-ils percevoir un silence éloquent qu'un humain, lui, percevra et interprétera immédiatement? Comment on peut entraîner les robots à ça? Eh bien, je ne vois pas du tout comment c'est possible. Alors, j'étais en train de me dire, j'ai plus l'impression d'être aussi aveugle que l'Italien qui ne voit pas ce qui se passe dans son jardin. J'ai l'impression de déceler quelques-uns des drames qui se déroulent sous mes yeux. J'en étais là donc quand ce que disait Nicolas à propos du silence éloquent m'a rappelé un épisode de la super série d'Arte Blow Up. C'est une série qui fouille les thématiques qui traversent l'histoire du cinéma, et donc un épisode a été consacré au silence au cinéma. Et évidemment, ce qui en ressort, c'est la polysémie du silence.
À part ça, certains films sont entièrement conçus sur cette idée de bruit incessant puis de silence soudain, comme Rencontre du troisième type et ses scientifiques qui ne cessent de voyager à travers le monde, d'échanger en mille langues dans le bruit et la confusion, pour finalement se retrouver face aux extraterrestres dans le silence. Une idée que l'on retrouve également dans Le Faces de John Cassavetes, film de l'excès de paroles et d'alcool jusqu'à l'épuisement. Mais à part ça, le silence illustre d'autres idées, comme notamment la solitude, le vide et l'ennui, pour une jeune femme dont le destin s'apprête à basculer dans Bonnie and Clyde, ou pour un jeune toxicomane en période de sevrage dans Oslo 31 août, et puis le silence d'un couple, celui de Charlotte Rampling et Bruno Kremer et leur train-train quotidien dans Sous le sable, ou le silence entre Jean-Pierre Léo et Claude Jade au bord de la rupture dans Domicile conjugal, sans oublier le silence proche de la catatonie, entre Francisco Rabal et Monica Vitti au début de l'éclipse d'Antonioni. Cela dit, à l'inverse, le silence permet également de souligner la tension érotique entre deux personnages, ici dans La captive de Chantal Akerman, avec les étranges caresses à distance entre Stanislas Méard et Sylvie Testu, amplifiées par l'écoulement d'eau. Enfin, le sexe au cinéma est aussi souvent affaire de silence, comme chez Tsai Ming-liang, ici dans La saveur de la pastèque, et son silence amplifié cette fois par le bruit des draps. Mais encore, le silence est idéal pour illustrer la pensée en marche, la réflexion, celle de Josh Brolin dans No Country for Old Men, qui analyse l'événement qui vient de se dérouler et ses conséquences, ou encore la réflexion de David Hemmings face à ses photos agrandies dans le blow-up d'Antonioni. Ce qui nous fait penser aux diverses activités artistiques qui le plus souvent se déroulent dans le silence, pour le photographe Laurent Terzieff dans La prisonnière de Clouseau, pour le peintre Antonio Lopez dans Le songe de la lumière de Victor Hérissé, ou encore pour le cinéaste Denis Franz travaillant dans le silence, ou presque, dans Body Double. Quiet, please. I'm trying to
think. Voilà, un type qui gueule pour avoir le silence et essayer de penser. Parfaite allégorie de notre situation actuelle, si j'en crois Nicolas. Merci à Nicolas Taffin. Je rappelle que son livre « Typothérapie » est disponible chez C&F Éditions. À la prise de son, c'était Clément Vuillet et Pierre Faucillon. Au mixage, Benjamin Orgeret et Basile Bocquer. Réalisation, Fanny Beauhuon. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.